J'aime bien l'agité du local du vendredi.
Ah oui, c'est le grand entretien. Eh, monte le son.
Dans cette émission, on vous parle souvent de ces vibrations, de ces émotions en concert, en festival, de ces sensations que l'on peut ressentir face à un tableau ou même dans les gradins d'un match, d'un événement sportif. Dans l'agité du local, on vous le dit souvent, ces moments, ces espaces sont essentiels. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est de l'accès à ces espaces pour tous. Et oui, je ne suis pas seule en studio aujourd'hui, je suis avec Mathieu Leget, ancien président fondateur et aujourd'hui salarié de l'association Qu'est-ce-t'en-dit à Laval. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue aussi à vous, amis auditeuristes. On terminera cette émission comme chaque vendredi par l'agenda culturel qui est encore une fois de très belles propositions. Restez bien avec nous. Mais je le disais, je suis en bonne compagnie. Je suis donc avec Mathieu. Ton association, tu l'as créée en 2008. D'abord sous le nom d'Unisson, avant de devenir Qu'est-ce-t'en-dit. Et alors l'objectif de Qu'est-ce-t'en-dit, c'est de permettre l'accès à des événements aux personnes en situation de handicap. Et cette mission, tu l'as remplie particulièrement bien, en tout cas l'association l'a remplie particulièrement, on peut le dire comme ça, puisqu'en 2015, l'association a été récompensée en devenant lauréat du Trophée national de l'accessibilité dans la catégorie « Accès pour tous à la culture ». L'association cible d'ailleurs principalement l'accès et l'inclusion dans les événements sportifs et culturels. Est-ce que j'ai bien résumé ?
Oh bah oui, ça donne un bon résumé de l'association en tout cas, ouais.
On va échanger ensemble dans cette émission sur les différents dispositifs ou équipements que l'association propose. Mais pour commencer, je crois ne pas me tromper en disant que finalement, on a très peu conscience ou connaissance des défis, des différents défis auxquels sont confrontées les personnes en situation de handicap au quotidien, même au-delà des événements culturels et sportifs. Est-ce que tu peux nous en parler dans l'espace public, par exemple, au quotidien ?
Ah bah ouais, complètement. Au quotidien, il y a tout un tas de difficultés. Alors naturellement, c'était aussi le but, le cadre de la loi de 2005, de pouvoir rendre accessible tout un tas de lieux, en tout cas de lieux publics. Les principales difficultés quand même dans l'espace public vont être autour de l'accès. Alors l'accès, ça peut être l'accès à la mobilité, l'accès à l'information, l'accès à des personnes, à de l'humain pour pouvoir échanger, dialoguer, se faire accompagner pour toutes ces démarches du quotidien. Donc oui, en effet, dans le quotidien, dans l'espace public, il y a déjà des difficultés pour tout un tas de choses. Ouais.
Il y a aussi tout l'accès au logement pour tout ce qui est plus personnel. Il y a énormément de choses en fait dont on a très très peu conscience. J'imagine que dans certains départements, c'est plus ou moins adapté. Je me suis posé la question en Mayenne ou même particulièrement à Laval, comment on se situe nous ?
Eh bien, alors, je ne pourrais pas prétendre connaître tout le département de la Mayenne sur cette question-là. En tout cas, c'est vrai qu'on est là un petit territoire plutôt rural. Malgré tout, je pense en tout cas qu'il y a plutôt de belles initiatives. Il y a un gros tissu associatif ou en tout cas tout un tas d'associations qui sont liées et qui font des choses communes. Donc, il y a quand même une belle dynamique sur le territoire. Et je pense que ce n'est pas étranger au fait que Laval, en fait, la ville de Laval, s'est vu décerner le label Ville Handi Accueillante, qui est quand même un premier label en France. Et ça montre quand même l'impact de cette dynamique sur le territoire. Et nous, en tout cas, avec Qu'est-ce-t'en-dit, on est très en lien avec la ville pour continuer à faire évoluer toutes ces pratiques et que ça devienne quelque chose justement dont on a conscience et dont à chaque fois, bah, particulièrement sur les événements, quand on organise quelque chose, on pense à tous et à toutes, quoi.
Et donc, on le disait tout à l'heure, l'association œuvre pour l'accessibilité aux événements sportifs et culturels, notamment avec du matériel mis à disposition. Il y a notamment le dispositif Mobile Connect pour lequel l'association vient de recevoir un don de 2000 euros par la Fondation Grand Ouest pour participer à l'investissement que vous allez faire sur l'évolution de ce dispositif pour pouvoir vous rééquiper. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est que ce dispositif Mobile Connect ?
Ouais, complètement. Bah, il est encore assez méconnu. C'est très nouveau, hein. Nous, du coup, ça faisait quelques années qu'on le suivait. Alors, on va peut-être y revenir, mais c'est vrai qu'on est aussi en lien avec toutes les associations du monde du handicap et notamment des personnes bénéficiaires parce que c'est de elles qu'on va chercher le besoin et ce qu'il leur faut sur des événements pour pouvoir y accéder et les vivre pleinement. Le Mobile Connect, il va plutôt être orienté, en tout cas, il va être une solution pour le handicap auditif, donc, du coup les personnes qui vont être malentendantes et à Paris. En fait, il y avait une première solution qui existait avant. Là, ça faisait partie aussi du cadre de cette loi de 2005. On installait des boucles magnétiques. Donc, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. En fait, les anciens appareils auditifs qui étaient posés sont des appareils auditifs avec une certaine position qui s'appelle la position T. On le voit parfois sur des affiches, à des endroits, on voit le symbole, le picto avec l'oreille barrée, avec un petit T à côté.
Oui, effectivement.
Et du coup, ça, c'est pour ces appareils auditifs-là. On va dire... pour grossir un peu les traits, c'était l'ancienne génération des appareils auditifs qui fonctionnaient par voie magnétique. Depuis quelques années maintenant, les audioprothésistes en fait installent des nouveaux types d'appareillage auditif qui eux vont être avec de la nouvelle technologie, notamment la technologie Bluetooth. Alors pareil, encore une fois, pour grossir les traits, principalement pour pouvoir, avec notre smartphone, pouvoir dialoguer avec son propre appareil auditif, donc recevoir un appel, enfin... En tout cas, pouvoir gérer tout un tas de choses directement depuis son smartphone. Et en fait, les personnes qui étaient malentendantes et appareillées de ce nouveau type d'appareillage sont venues vers nous, ou en tout cas, on a eu des retours depuis 2, 3, 4 ans maintenant, en disant, bah, en fait, nous, les boucles magnétiques comme elles existaient avant, on ne peut plus s'en servir, on ne peut plus avoir ce confort auditif qu'on avait avant. Et ça ne marche plus avec ce nouveau type d'appareillage. Du coup, on s'est mis à regarder, nous, à Questandi, qu'est-ce qui pouvait exister, quelles solutions on pouvait trouver. Et du coup, est arrivé ce fameux Mobile Connect. Alors bon, c'est un gros investissement, mais on est content de l'avoir fait en fin d'année dernière. On a déjà pu le tester sur quelques événements et vraiment, ça satisfait énormément. Alors d'ailleurs, à Laval, le 40 en est équipé. Et je crois que le Carré à Château-Gontier également. Donc en fait, le Mobile Connect va être une solution pour ces nouveaux types d'appareillage. Le principe reste le même. On récupère un signal sonore à la sortie son de la régie, de la salle, de l'événement, qu'on va transformer via un signal Wi-Fi. Nous, on va imposer une petite antenne Wi-Fi à cet endroit-là. La personne qui est malentendante depuis son smartphone va récupérer ce signal Wi-Fi et par le biais d'une application et par le Bluetooth, va pouvoir le renvoyer sur son appareil auditif. Ce qui fait qu'en fait, l'appareil auditif, qui normalement est là pour amplifier des sons, là, dans un contexte d'événement, parfois, va plutôt être défavorable. Les gens vont avoir plutôt tendance à le couper parce que ça va amplifier le bruit de la foule, le vent, enfin, tout un tas de bruits qui sont parasites.
Oui.
Et là, du coup, on vient se couper de tout cette amplification-là et juste recevoir le son de la musique, du spectacle, de ce qu'on vient voir, de la conférence, de ce qu'on vient voir. Et du coup, ça donne un gros confort d'écoute. Et en plus, par le biais de cette technologie et de l'application, on peut venir en plus régler les aigus, les graves, l'intensité. Enfin, bien, en fait, on vient se faire sa propre petite régition dans son appareil auditif et du coup avoir un super confort d'écoute de ce qu'on vient regarder. Quoi.
Oui, donc une très belle évolution par rapport à ce qui existait auparavant, qui rend effectivement un concert. J'imagine que quand on entend tous les bruits parasites autour, ça doit même être fatigant, voire agressif. Là, y a une autre expérience en fait de certains événements. C'est impressionnant en fait.
Bah, les retours en tout cas sont vraiment super, ouais, complètement.
Et je pense notamment aux festivals de musique qui vont arriver plutôt vite maintenant, parce que ce n'est pas le seul dispositif qui existe pour les personnes sourdes ou malentendantes. Tu parlais tout à l'heure des boucles magnétiques individuelles et il y a aussi les sub-pack. Je ne sais pas si je le prononce bien.
Chacun le prononce comme il veut, nous on dit sub-pack en tout cas. Ouais, complètement.
Et donc ça c'est un autre équipement qui est assez impressionnant aussi du coup pour vivre les concerts, les festivals, j'imagine que c'est...
Ouais, complètement. Bah, on essaye en tout cas dans l'association de pouvoir avoir un parc matériel qui puisse correspondre à un maximum de personnes et d'essayer en tout cas au maximum d'aller dans tous les champs du handicap ou de la déficience. Donc les boucles magnétiques, en effet, j'en parlais tout à l'heure, donc on va plutôt être sur les personnes qui sont malentendantes et appareillées avec l'ancienne génération des appareils. Donc en effet, comme tu le disais, les boucles magnétiques, nous on les a sous deux versions, soit sous une forme collective, on vient délimiter toute une zone, un périmètre à l'intérieur duquel les personnes appareillées peuvent se mettre sur cette position T pour recevoir le son dans leur appareil, ou des boucles individuelles où là, on vient leur remettre une forme de tour de cou qui est sa propre petite boucle individuelle et on peut se balader où on veut librement et être soi-même sa petite zone en fait quelque part et avoir ce confort auditif dans son appareil. Et en effet, les sub-packs vont répondre peut-être à d'autres population, en tout cas, ou à d'autres, être une solution à d'autres déficiences. Souvent, on aime bien dire qu'on l'allie avec le chansigne. Donc le chansigne, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. En gros, un spectacle qui va pouvoir être accompagné par un ou une artiste interprète en langue des signes. Alors le but, ce n'est pas de faire de la traduction, c'est vraiment de s'adapter et au contexte du spectacle, à la mouvance, à la danse, et de pouvoir traduire s'il y a des paroles, ou en tout cas donner le sens global des choses. Parce que
une
parfois
intention
on a...
d'émotion, ouais. On voit, c'est très beau à regarder.
Ouais, complètement. Ouais. Ouais, c'est souvent très... Ouais, c'est assez émouvant souvent.
C'est artistique, il y a quelque chose vraiment qui se passe, ouais, totalement.
Ouais, carrément. Et ce qu'on aime bien souvent, c'est allier ça justement avec cette expérience du subpack. Donc qu'est-ce que c'est qu'un subpack ? C'est un sac à dos. Au prime abord, pas grand-chose, mais sauf qu'il est vibrant. Donc, on vient positionner ce sac à dos. Alors, des gens préfèrent l'avoir sur le dos, d'autres sur le ventre. Après, on le positionne comme on veut. Et ce sac à dos, en fait, on aura placé au préalable un émetteur aussi à nouveau sur cette régie son dont je parlais tout à l'heure, ou l'endroit où, en tout cas, on peut récupérer un signal sonore. Et en fait, ça va venir retranscrire la musique ou le spectacle, non sous forme de ce qu'on pourrait écouter avec nos oreilles, mais sous forme de vibration. Donc en fait, on vient donner de la sensation, de la vibration, on ressent les choses, la musique, plutôt que de l'écoute proprement parlée, quoi. Et donc, à l'origine, c'est vrai que c'était plutôt une réponse aux personnes sourdes. Et en fait, on s'en est rendu compte que c'est tellement impressionnant à faire. Souvent, on s'en rend compte sur les événements. Le tout public vient essayer pour se rendre compte de ce que ça fait. Et en fait, on se rend compte que tout le monde est intéressé et qu'il y a d'autres formes de déficience, même parfois mentale ou même dans l'autisme, où en fait, ça peut être aussi une solution qui est très intéressante pour que les personnes puissent ressentir les choses autrement que par l'écoute, quoi.
Super intéressant, je ne connaissais pas du tout moi, ce dispositif-là. Il y a d'autres équipements, notamment un que l'on connaît mieux, c'est le casque d'audio-description que l'association met également à disposition. Et je me posais une question, pour utiliser cet outil, il faut en fait que la structure dans laquelle on se rend ait une piste audio à disposition pour pouvoir être utilisée.
Ouais, alors carrément. Alors soit piste audio, enfin, je peux l'expliquer. Du coup, déjà là, on s'adresse plutôt au champ de la déficience visuelle.
Bien
pour
sûr,
l'audio
oui.
Description. Donc, en effet, si par exemple on va au cinéma, certains films ont déjà leur piste d'audio description. Donc là, ça va être juste une histoire de logistique de connexion avec un casque pour pouvoir accéder à ces pistes et pouvoir être dans la salle du cinéma et que quelqu'un nous audio-décrive ce qui se passe sur l'écran. Sinon, dans le monde, on va dire, plutôt musical, en fait, c'est souvent, il n'y a pas forcément ce genre de piste qui existe. Par contre, il y a des gens qui peuvent être formés. Nous, en tout cas, on a des personnes formées au sein de l'association et puis on essaye de continuer à faire en sorte qu'il y en ait toujours un peu de formés. Et sur le département, il y a des personnes qui font ça très bien. Mmh. Et du coup, en fait, l'idée, c'est qu'il y ait une personne avec un micro ou à l'oreille, mais souvent sur des événements type festival, ça s'y prête un petit peu moins vu l'ambiance sonore. mais voilà, en tout cas, une personne qui vient audio-décrire ce qui se passe, donc qui vient décrire la scène. Donc si je suis dans un théâtre, décrire les décors, les personnages. Si je suis dans un festival, ben voilà, il y a une chanteuse, un batteur, une bassiste, enfin voilà. Du coup, qui vient expliquer, tiens, la foule vient de réagir parce que le chanteur ou la chanteuse vient de faire tel geste avec ses bras, enfin voilà. C'est vraiment donner un peu le cadre. La personne avec la déficience visuelle, a priori, entend en tout cas ce qui se passe, mais juste elle a besoin de comprendre ce qu'il y a devant elle, sous ses yeux, quoi.
Donc c'est des bénévoles principalement peut-être qui interviennent sur ce, pas forcément, ou les salariés ?
Nous, dans notre cadre à nous, on va plutôt être sur des bénévoles, en effet, qui vont intervenir. Après, par exemple, on travaille avec le Théâtre de Laval. Là, on met juste le matériel à disposition, mais c'est une personne salariée qui vient, parce que ça se travaille souvent peu en amont. Il faut aller voir le spectacle, écrire déjà ce qu'on va dire, parce qu'en fait, la plupart du temps, on ne parle pas quand quelqu'un parle. De la même façon, on ne parle pas quand quelqu'un chante. Du coup, on vient le faire au tout début du spectacle ou dans les entractes ou dans les moments où il n'y a pas de bruit, où je peux glisser quelques mots pour expliquer ce qui se passe. Enfin, voilà. Donc du coup, soit bénévole, soit en effet salarié quand il y a vraiment un gros travail à faire en amont pour pouvoir audio-décrire la scène, quoi.
Oui, c'est vraiment technique en fait. Il faut être coordonné effectivement avec ce qui se passe et potentiellement anticiper également. Est-ce qu'il y a beaucoup de structures qui ont ça à disposition, des personnes salariées qui se chargent vraiment de cette mission-là ?
Je ne pense pas qu'on puisse dire beaucoup, en tout cas. Mmh. Encore une fois, on a un département où on a peut-être plutôt cette chance d'avoir une bonne dynamique, donc on est quelques-uns et quelques-unes en Mayenne à pouvoir le faire. C'est peut-être encore trop peu, mais en tout cas, on travaille avec les scènes locales pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait des spectacles quand même au cours de la saison qui puissent être audio-décrits. Le cinéma de Laval, justement, aussi, qui a amélioré aussi tout son matériel pour pouvoir le rendre possible. Et puis, nous, sur tout l'aspect événementiel, on essaye aussi au maximum de pouvoir introduire ça, même si ça reste quelque chose qui n'est pas si simple que ça à faire. Quoi.
Bien sûr, c'est à penser et à mettre en place, effectivement. Je pense maintenant aux personnes à mobilité réduite. Vous avez aussi des équipements à disposition pour les événements et vous collaborez même avec le festival, par exemple, Au Foin de la Rue. J'ai cru voir qu'il y avait également les Papillons de Nuit. Non, c'est pas...
Ah ben, on intervient en Papillon de Nuit.
Voilà, ouais, c'est ce que j'ai bien vu, je ne dis pas de bêtises, ouais, j'ai eu un doute. Donc il y a différents équipements, il y a la roule Homo, la rampe d'accessibilité ou la borne de rechargement que vous avez au sein de l'association. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit ?
Ouais, carrément. Donc du coup, c'est en coopération avec Au Foin de la Rue, ces éléments-là. En fait, quand on parlait des subpacks tout à l'heure, c'était aussi le cas. En fait, ça a été aussi... L'association et le festival Au Foin de la Rue ont été un peu un tournant dans l'histoire de notre association à nous, qu'est-ce t'en dis, parce que c'est par ce biais-là qu'on s'est dit, en fait, on pourrait être des accompagnateurs d'événements plutôt que de faire nous-mêmes nos événements accessibles. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait un peu notre virage dans l'association et qu'on a commencé à diversifier nos actions et nos accompagnements. Et donc, du coup, avec Au Foin de la Rue, on a investi dans du matériel en commun, donc les subpacks qu'on a investis en commun. Et du coup, ces rouleaux mots et la borne de rechargement sont du matériel de l'association Au Foin de la Rue, mais qu'ils nous mettent en gérance tout au long de l'année pour qu'on puisse aussi faire en sorte qu'ils puissent être mutualisés sur d'autres événements. Ces deux matériels-là vont être plutôt dans le champ du handicap moteur, comme tu le disais. Des rouleaux mots, en fait, c'est une roue un peu tout-terrain, un peu crosse, quelque part, qu'on vient clipser sur un fauteuil manuel. Donc un fauteuil manuel, je pense que tout le monde l'a en tête, on a les deux grosses roues principales et les deux petites roues à l'avant qui permettent la stabilité naturellement du fauteuil. Et en fait, c'est ces deux petites roues-là qui, bien souvent, sur des chemins, des cheminements, des endroits qui sont un peu chaotiques, c'est ces petites roues-là qui vont venir se coincer dans un trou, vont vriller. En fait, c'est ça qui vont rendre le cheminement, la mobilité compliquée. L'intérêt de la roue Homo, c'est qu'on vient se clipser sur l'avant du fauteuil, donc devant les jambes de la personne, et par un petit système de bascule, on vient clipser la roue, ce qui fait que les deux petites roues de devant se retrouvent en dehors du sol, levées en gros, et en fait on transforme le fauteuil manuel en tricycle. Il reste les deux grosses roues à droite et à gauche de la personne, et cette roue Homo qui est la troisième roue devant. Donc voilà, le fauteuil devient un tricycle, et en fait ça optimise largement la manipulation du fauteuil et le déplacement sur des zones qui sont pas très cheminables dans des champs, par exemple, pour le cas des festivals.
C'est
quoi.
Ça, exactement.
Donc voilà, c'est tout l'intérêt de ces rouleaux mots-là. Donc on en a deux. Enfin, l'association Au Foin de la Rue, on a investi deux que nous, on a du coup pour pouvoir mettre sur les événements tout au long de l'année. Et cette fameuse borne de rechargement qui, elle, va être à plusieurs destinataires. En fait, c'est principalement déjà pouvoir permettre à des personnes qui sont en fauteuil électrique de pouvoir se recharger. Notamment, on le dit souvent, mais voilà, il y a des campings souvent sur les festivals parce qu'on est sur plusieurs jours. Quand on vient sur une soirée, à la limite, je pense qu'on peut se dire « Bon, allez, je recharge mon fauteuil avant de venir à la soirée pour que j'ai mon autonomie électrique pour la soirée. » Quand on vient sur un week-end, c'est un peu plus compliqué. Si je veux dormir sur le camping du festival, par exemple. Donc, on vient mettre cette borne à un endroit pour que la personne qui veut rester sur le festival et sur le camping, par exemple, la nuit, puisse recharger son fauteuil pendant qu'il dort, quoi. Donc, et on en a profité, en fait, pour aussi mettre à l'intérieur un compresseur et qui permet de regonfler les pneus. Et là, pour le coup, que ce soit fauteuil manuel ou électrique, on peut regonfler les pneus de son fauteuil grâce à cette borne, quoi.
Essentiel, effectivement. On pense pas forcément à toutes ces choses-là, mais effectivement, c'est très bien que tu nous l'expliques. Travailler sur l'accessibilité et l'inclusion passe aussi par, des moments de sensibilisation et de formation. Donc vous intervenez dans les structures, dans les écoles, auprès des publics justement pour sensibiliser, et notamment dès le plus jeune âge.
Ouais, tout à fait. Bah, en fait, ça, c'est aussi, bah, ça fait partie un peu de l'histoire de l'association où au début, on n'était que bénévoles, puis une personne salariée et deux depuis 3 ans maintenant. Donc, ma collègue Sophie Ourdier, qui, elle, est chargée de la vie associative, de la sensibilisation et des formations. Et en effet, du coup, c'est devenu aussi un gros axe pour nous, en fait, de pouvoir aller sensibiliser donc, dans le milieu scolaire. Alors, voilà, primaire, collège, lycée, MFR, on fait des centres de loisirs aussi, on va dans des instituts de formation aussi, par exemple les BPGEPS ou CPGEPS qui sont des animateurs ou animatrices du demain. Enfin voilà, du coup on essaye et en effet, comme tu le dis, je pense que c'est important aussi d'aller sensibiliser dès le plus jeune âge aussi pour que voilà, cette génération de demain puisse déjà avoir aussi ces points de vigilance en fait sur tout le quotidien, pas que l'aspect culturel naturellement, mais en tout cas de pouvoir être vigilant à prendre à chaque fois pour chaque chose compte de tous et de toutes, quoi, quel que soit son handicap ou sa déficience, quoi.
Oui, mieux connaître le handicap permet justement de lutter contre les préjugés un peu qu'il peut y avoir autour de ça et de ne pas rester dans l'ignorance, mais d'aller plutôt sous une forme de dialogue et de compréhension de ce que vit aussi l'autre. Ça, c'est essentiel, j'imagine.
Bah ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Et en fait, c'est tout l'intérêt de ces sensibilisations. Bon, Sophie, ma collègue, pourra en parler mieux que moi, mais voilà, c'est tout l'intérêt aussi des... par le biais du jeu, souvent, d'amener l'enfant à se situer, à être en situation d'un... handicap, si on peut dire, en tout cas, voilà, de faire un jeu les yeux bandés, de soi-même s'essayer à utiliser un fauteuil manuel et de se rendre compte des difficultés que ça amène dans la vie de tous les jours. Enfin, voilà, c'est par ce biais-là, en tout cas, qu'on se dit que ça peut être intéressant de sensibiliser les enfants, quoi.
Mathieu, je te propose que l'on poursuive cet échange dans quelques minutes. Après une petite pause musicale, on écoute tout de suite le groupe Trix et le titre Mother.
For them, it's not the same. How can you be there for me if they're ashamed of you? I'm trying to find all the keys to see you again. Will you still love me through your delusions? Will you go back to the confessional with your God?
This is the
Nous sommes de retour dans l'agité du local sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Je suis en compagnie de Mathieu Leget, président de l'association Questandi. Et dans ce grand entretien du vendredi, on parle aujourd'hui ensemble d'inclusion et d'accessibilité des événements sportifs et culturels pour les personnes en situation de handicap. J'ai envie de poursuivre cet échange ensemble, Mathieu, en abordant notamment la situation actuelle. On parle d'inflation. Beaucoup de structures pâtissent de ça. Est-ce que c'est un risque qu'on laisse un peu de côté ces questions-là aujourd'hui par manque de moyens ? Parce que s'équiper, on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi coûteux. J'imagine même que cette question se pose aussi parfois dans des foyers, des familles confrontées au handicap. L'équipement n'est pas toujours pris en charge à hauteur des besoins. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes confronté dans l'association Questandi ?
Ah bah complètement, hein. Ça fait même partie quasiment du quotidien. C'est vrai que nous, la plupart des événements avec lesquels on peut travailler sont du monde associatif ou issus du monde associatif. Donc en effet, il y a, comme tu dis, à la fois l'aspect inflation qui joue, l'aspect aussi des subventions publiques qui sont quand même plutôt à la tendance à la baisse, quoi. Les structures, en effet, ça, c'est pas forcément là-dessus, et on peut le comprendre, hein, qu'elles vont mettre l'accent, si elles ont à choisir quelque chose, c'est pas forcément par ce biais-là qu'elles vont commencer. Mais voilà, c'est tout l'intérêt aussi, nous, de notre accompagnement, aussi parce que dans l'idée derrière Questandi, c'était aussi pouvoir avoir un aspect de mutualisation, c'est-à-dire que nous, on investit dans du matériel, ça coûte cher, hein, on ne le fait pas tout le temps, mais en tout cas, on essaie de suivre le quotidien. On se tient informé aussi, comme je disais tout à l'heure, en étant proche des associations et de leurs besoins, des bénéficiaires. Et on investit dans ce matériel et c'est de pouvoir aussi le mutualiser. Alors bon, naturellement, nous aussi, on a 2 emplois salariés à faire vivre et en même temps, on reste une association, on reste sur un territoire qui est quand même assez dynamique, donc on essaye de faire en sorte que nos coûts de location ou de fonctionnement quand on vient sur un événement soient pas trop élevés pour que justement le côté financier ne soit pas un frein à l'organisation et à l'accessibilité de l'événement, quoi.
Mathieu, tu nous le disais tout à l'heure, tu as fondé, en fait tu es là depuis les tout débuts de l'association. Je me pose la question, qu'est-ce qui t'a donné envie à un moment dans ta vie de t'engager justement pour cette cause-là ?
Eh bien, alors déjà, j'étais pas tout seul. Hein. C'est moi qui parle, mais en fait, derrière moi, j'ai les images qui me reviennent de toutes ces personnes qui étaient là aussi en 2008. En fait, ce qui m'a donné envie, c'est que, alors à titre privé, j'étais dans les séjours adaptés, donc des séjours pour adultes en situation de handicap, des colos, comme on peut dire, adaptés. Et en fait, sur les colos l'été, on aimait bien pouvoir aller sur... On avait déjà un peu cette tendance à aller sur les festivals ou aller voir les animations culturelles du moment, suivant l'endroit où on était en France, colo, quoi. Et on était allé voir un concert, alors je le dis pour la petite anecdote, c'était Mes Souliers Sont Rouges, pour ceux qui connaissent. On est allé voir un concert de Mes Souliers Sont Rouges avec les vacanciers du séjour. On s'était déjà dit à ce moment-là, quand même, c'est pas si simple, on avait des vacanciers avec différents profils, avec plusieurs types de handicaps différents. On s'est dit, quand même, c'est vrai que c'est pas toujours bien fait pour accueillir ces personnes-là, ça. Donc nous, on était là en tant qu'animateur ou animatrice. Du coup, on savait comment les accompagner, mais c'est vrai qu'on faisait souvent un peu avec le système D, quoi. Bref, l'été s'est passé, on s'est retrouvés à l'automne, en fait, Mes Souliers Sont Rouges passaient aux Ondines à côté de Laval. On s'est dit, tiens, c'est l'occasion de se retrouver toute l'équipe post-colo, quoi. Et en fait, on est resté à dialoguer avec les membres du groupe. Et comme bien souvent, ça peut arriver quand on reste à boire quelques coups après le concert, il y a des idées saugrenues comme ça, parfois, qui arrivent, qui sont lancées, où on se dit, demain, ce sera oublié, ce sera fini. Et puis, en fait, on est resté un petit noyau à se dire, au final... on n'a pas envie que ce soit juste le temps d'une soirée qu'on se prend à rêver à ce qui pourrait exister. Et en fait, on a mis alors peut-être 1, 2, 3 ans à vraiment essayer de comprendre comment on pourrait monter quelque chose, qu'est-ce qu'on pourrait faire. On n'était pas issus du secteur culturel du tout, du coup, à rencontrer aussi des gens, à comprendre c'est quoi les enjeux, c'est quoi les freins, voilà. Et puis en 2008, on a créé cette association. Alors, comme tu disais tout à l'heure, à l'époque, elle s'appelait Unisson. Et en fait, quand on l'a créé au début, c'était vraiment avec l'objectif, on l'a fait 2 fois, en 2009 et en 2012, c'était de créer un festival totalement accessible. En fait, un peu une vitrine pour que, et inviter, ce qu'on a fait, inviter des événements plus ou moins proches à venir voir le festival avec des solutions. Alors, on prétendait pas être un super organisateur d'événements, pour le coup, parce que c'était pas notre métier. Mais en tout cas, on voulait montrer ce qu'on pouvait mettre en place sur le temps d'un événement, d'un festival, qu'est-ce qui pourrait exister pour faciliter l'accueil des personnes en situation de handicap. Et comme je le disais, en fait, du coup, en fait, on n'en a fait que deux événements parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas des professionnels, nous, du monde de la culture. Donc, c'était pas vraiment ça, notre cœur de projet. Et c'est par le biais de Au fond de la rue où, en fait, on s'est rendu compte que bah, finalement, c'était pas forcément tant l'organiser que plutôt d'être présent pour accompagner les équipes organisatrices à mettre en place des solutions d'accessibilité. Et voilà. Et puis depuis, c'est parti. Ça a pris la route où on en est aujourd'hui avec, avec deux salariés dans l'association. Quoi.
Une très belle histoire. Et j'imagine qu'aujourd'hui, l'association et toi aussi par la même occasion, forcément, vous avez des retours justement de ces structures qui vous accueillent ou même des gens qui bénéficient des dispositifs que vous mettez en place.
Bah oui, complètement. Bah, nous, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est vraiment là pour plutôt faire avec ces personnes-là plutôt que de faire à leur place et d'imaginer des solutions à leur place. Donc en tout cas, c'était vrai notamment au tout début quand on avait besoin de comprendre ce qui ne marchait pas, qu'est-ce qui pouvait être un frein à la venue, à la mobilité comme j'ai dit tout à l'heure, à l'accès à l'information, à tout un tas de choses. Du coup, on avait besoin de leur retour et de pouvoir imaginer les choses et elles font clairement partie dans tous les cas de toutes ces solutions. Le Mobile Connect, comme on le disait tout à l'heure, c'est venu parce que on est en lien avec ces personnes-là et qu'elles nous ont fait des retours et qu'il fallait imaginer autre chose. Donc voilà, il y a toujours un va-et-vient permanent et puis on se retrouve assez régulièrement parce que la Mayenne, on le disait, est assez petite et qui a un riche dynamisme associatif. Du coup, on se retrouve dans plein d'événements différents. Et voilà, et on aime bien échanger là-dessus, prendre les retours et en effet, la plupart du temps, alors c'est peut-être un peu fier de dire ça comme ça, mais c'est vrai qu'on aime bien, c'est que les retours qu'on a, c'est que quand les gens voient notre logo sur l'affiche d'un événement, ils savent qu'il y a une marque de fabrique derrière et ils peuvent se dire « c'est bon, je peux y aller des yeux fermés, qu'est-ce t'en dis là ?» Et ça nous a fait hyper chaud au cœur la première fois qu'on a entendu ce retour-là. Et je pense que c'est vrai et sincère quand ils le disent parce qu'on les retrouve la plupart du temps sur les événements où on est présent, quoi.
Oui, donc un gage de qualité qui rassure et qui permet à tout le monde d'accéder justement à ces différents événements. L'association Question dit, donc c'est les salariés, mais c'est aussi des bénévoles. Et donc, si des auditeurs nous entendent, nous écoutent aujourd'hui et se disent « tiens, j'aimerais bien rejoindre l'association », comment ça se passe ?
Oh bah c'est plutôt assez simple. Bon déjà nos contacts normalement sont plutôt faciles à trouver. On a le site internet. Voilà, nos bureaux sont à l'annexe Pierre Boots à Laval. Donc c'est assez simple de nous rencontrer en tout cas. Après comment ça se passe quand on est bénévole? Bah de la même façon. Alors c'est vrai qu'on a peut-être une chance de ce côté-là. On a un bon réseau de bénévoles parce que c'est peut-être assez facile dans le sens où, en fait, c'est nous, en tant que salariés, qu'allons organiser tout l'aspect logistique en amont de la venue. Et en fait, les bénévoles, ben, on en a besoin pour les jours J sur les temps de festival. Donc, en fait, c'est plutôt des beaux moments de bénévolat parce qu'on est sur un moment festif où on profite aussi des spectacles. Même si on est là pour l'accompagnement des personnes qui en ont besoin, on en profite aussi un peu. Donc, c'est vrai que c'est plutôt des beaux moments de bénévolat, quoi. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de dire dans l'association, on a quand même un bon gros réseau en Mayenne et aux alentours, et de dire bah, en fait on préfère largement voir quelqu'un peut-être que 2 heures dans l'année, mais qu'au moins pendant 2 heures il se donne à fond ou qu'il soit vraiment présent pour les personnes pour qui il est présent. Et ça on aime bien ça, quoi.
On peut également suivre vos actualités sur les réseaux sociaux, vous êtes présent sur les réseaux sociaux. Et il y a une date à noter, c'est demain, donc le 16 mars à 10h30 à Laval, vous tenez votre Assemblée Générale.
Et oui, c'est ça, notre gros moment associatif. Alors ça n'avait même rien à voir avec ma venue ici à l'autre radio, parce que tu m'as contacté sans savoir forcément
bien sûr,
ça.
Exactement.
Mais du coup, ça tombe plutôt bien, voilà, c'est ça. Donc accueil à partir de 10h demain, un petit accueil café viennoiserie, on va dire. Et puis à partir de 10h30, l'Assemblée Générale, on va dire la journée associative par excellence d'une association qui est vraiment ouverte au public et qui puisse aussi permettre de rencontrer des personnes qui souhaitent ou non s'investir dans l'association ou adhérer dans l'association. Et on aime bien ce genre de journée, ouais.
Et donc ça se passe 29 rue de la Maillarderie.
C'est ça, exactement. C'est l'annexe Pierre Boots de la maison de quartier des Pommerais.
C'est ça. Et ben en tout cas, merci Mathieu d'avoir accepté mon invitation, d'avoir été avec moi tout au long de cette émission. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté.
Merci pour cette invitation aussi.
Les petits bonheurs et les morceaux de nous qui nous échappent, c'est comme ça que j'ai envie de commencer cet agenda culturel avec la pièce Carl, qui se jouera au théâtre L'Entracte à Sablé-sur-Sarthe. Carl, c'est du théâtre d'objets qui nous sera présenté par la compagnie Betty Bois Brut. Et je vais vous en dire un peu plus sur cette belle histoire, parce que si la pièce s'appelle Carl, c'est qu'elle emprunte son nom au personnage principal. Carl est gardien de phare, il vit seul au milieu de l'océan. Tous les jours, il allume et éteint son phare et ça suffit à son petit bonheur. Un petit bout de lui est différent, il s'appelle Beau, il est plutôt curieux et indépendant. Et un jour, il s'échappe, il se fait la belle. Alors Carl prend son courage à deux mains et part à sa recherche. Cette histoire se racontera sous vos yeux avec un tangramme animé. Sur la face d'un grand cube en bois, les triangles et carrés de bois glissent et s'assemblent de mille façons pour faire naître des personnages, objets ou même paysages. Ce spectacle est très beau, touchant et poétique. Carl se jouera trois dates. Alors notez bien dans vos agendas le 21, le 22 et le 23 mars au Théâtre L'Entracte à Sablé-sur-Sarthe. Maintenant, on passe la porte du Théâtre de Laval et avant toute chose, j'ai envie de vous demander, d'après vous, quel est l'opéra le plus célèbre du répertoire et le plus joué au monde ? Eh bien, c'est Carmen. Écrivez-le maintenant en deux mots, car/men, parce que c'est comme ça que s'écrit ce spectacle de danse et musique. Philippe Lafeuille, chorégraphe, pose un regard neuf sur ce monument culturel en jouant astucieusement des codes du masculin et du féminin et en croisant les propositions artistiques avec 8 danseurs et un chanteur virtuose. Sur scène, vous découvrirez un tourbillon d'audace et de couleurs pour cette relecture flamboyante du chef-d'œuvre de Bizet. Oui, rien que ça, et ça se passe donc demain, le 16 mars, au Théâtre de Laval. En restant sur Laval, j'ai été toquée à la porte de nos voisins au 6x4 pour qu'ils me disent ce qu'il se passe chez eux très prochainement. Ils m'ont annoncé que le concert d'Alyosha Schneider de ce soir est bien complet. Par contre, dimanche, le 6x4 propose un concert familial à 17h. C'est le trio Gablé que vous découvrirez sur scène et leur dernier album sorti en janvier de cette année, Pick the Week, qui s'est créé avec un grand nombre d'influences, notamment le folk. Et pour terminer cet agenda, comme on a 2 studios et que des voisins sympas et inspirants, on en a à Château-Gontier et à Laval. La semaine dernière, le Carré de Château-Gontier nous parlait du chapiteau installé justement à Château-Gontier de la compagnie Rasposo qui vous propose un spectacle de cirque moderne et poétique. Je vous rappelle que ce spectacle Horizon se joue encore ce soir et demain. C'est une vraie chance de les accueillir en Mayenne. Donc si vos billets ne sont pas encore pris, je ne peux que vous conseiller de le faire. Mais aussi Maël Grenier, directeur du théâtre, nous parle de ce qui nous attend la semaine prochaine. Alors écoutez.
Le vendredi 22 mars, nous accueillerons de la danse, on va dire musclée, de la danse énergique, de la danse à partager, vraiment à consommer sur place et à emporter chez soi, parce que c'est un moment d'énergie brute. Ça s'appelle Via Injabulo, c'est porté par la compagnie sud-africaine Via Katleang, et qui travaille essentiellement autour d'une culture qui s'appelle la culture Pansula, culture d'Afrique du Sud, qui est assez proche du hip-hop. C'est une danse tellurique, donc on retrouve des scansions ancestrales qui sont proches des rythmes tribaux, si vous voulez. De mémoire, ils sont 10, 10 danseurs sud-africains qui sont sous la baguette de 2 chorégraphes différents. Donc c'est un spectacle en 2 parties. La première partie sous la direction d'Amala Dianor, qui est un chorégraphe originaire d'Angers, mais qui travaille aussi à l'international. Et un chorégraphe portugais, Marco da Silva Ferreira. Donc 2 partitions différentes, mais avec les mêmes danseurs. Ce sont des danseurs qui ont une énergie incroyable, qui est communicative. Donc si vous voulez, si le 22 mars, vous êtes en recherche de shoot énergétique, vous venez au Carré. Voilà, il reste encore quelques places. On a une jauge déjà bien, bien remplie. Donc n'hésitez pas, n'attendez pas trop. Et je pense que ce jour-là, entre autres, vous ne serez pas déçus.
C'était la dernière agitée du local de la semaine. Merci à Mathieu d'avoir été avec moi pour ce grand entretien. Alors l'agitée du local part en week-end, mais l'autre radio continue avec de très beaux programmes, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Bon, je m'emballe un peu peut-être, mais votre week-end sera tout doux sur nos ondes. Et ça commence dès ce soir à 19h, puisque le vendredi soir, on retourne toujours un peu dans le passé, dans des souvenirs confortables, avec des chansons qu'on aimait, qu'on oublie parfois de réécouter. C'est l'émission Dance Hall Social Club qui vous propose ce moment. Et ça continue à 20h, un peu autrement mais toujours en musique, on retrouvera 2 copains, Fred et Plom, et sur le papier rien ne les réunit et pourtant ils ont bien un point commun, ils aiment se parler de musique, de son actualité, de ses particularités, de ses anecdotes, et pour mieux nous le partager, ils en ont fait une émission, Tempus Fugit, qui démarre sur nos ondes à 20h. Et toujours un coup d'œil sur le week-end. Samedi à 11h, c'est Lettres à Gaza. Rock Dreams à 13h qui s'intéresse de près à Louis Chédid, suivi de Rock à la Casbah à 18h et de Radio Vedette. Et à ne pas manquer, ce dimanche, notre émission spéciale Inauguration des reflets du cinéma canadien. J'aurai le plaisir de l'animer aux côtés de Fabrice Kerbrat. Nous serons en direct et en public du Cinéville de Laval avec Wilfried Jude, directeur artistique d'Atmosphère 53 et la réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette. Écoutez-nous sur nos ondes ou encore mieux, venez nous rejoindre sur place. Moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission de l'Agité du Local. D'ici là, allez au cinéma, prenez quelqu'un par la main, dites-lui un truc sympa, réchauffez vos cœurs ce week-end, ne restons pas seuls, soyons ensemble, faites-moi confiance et surtout, faites-le bien.
Tu peux couper la radio, Mimi, c'est fini.
Ah non, t'as pas bien écouté, les autres émissions qui arrivent, elles ont l'air super.